continue de s'installer massivement sur les littoraux, alors même qu'il y a une augmentation des risques. Donc là, il y a un petit paradoxe. Et puis après, il y a un deuxième paradoxe. On a bien identifié que les aménagements étaient une cause majeure de production des risques côtiers. Et pour autant, quand on parle des risques côtiers, on questionne assez rarement les modèles d'aménagement.
Nouveau territoire, le podcast, pour comprendre ce qui se passe au cœur des territoires.
Je m'appelle Jean Didier et je serai votre guide. Je vais vous accompagner pour explorer toutes les facettes des nouveaux territoires qui se dessinent sous nos yeux. Transition écologique et numérique, bouleversement sanitaire, surchauffe climatique. Nos repères, nos habitudes et nos quotidiens sont bousculés. Comment allons-nous habiter, construire, nous déplacer? Quel nouveau cadre pour mieux produire, cultiver, nous nourrir ou nous former? Ce podcast a vocation à définir ces thématiques et à explorer toutes les dynamiques qui foisonnent aujourd'hui dans nos territoires. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Nouveau Territoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Belloin. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Bienvenue donc dans Nouveau Territoire. Avec toi, nous allons parler des risques côtiers dans l'aménagement des littoraux. Tu as soutenu le 7 mai 2021 une thèse en architecture menée sous la direction de Sébastien Marot, co-encadrée par Frédéric Bonnet. Tu as travaillé dans une équipe rattachée à l'UMR Auxerre. Alors, je vais lire l'intitulé complet de ta thèse, « Les stratégies d'aménagement à l'épreuve des aléas littoraux ». L'épaisseur littorale de points à paradigme émergent dans l'aménagement des territoires côtiers. Alors Thomas, qu'est-ce qui t'a motivé à t'intéresser aux littoraux ?
J'ai eu la chance d'avoir une première expérience professionnelle en agence d'architecture et d'urbanisme qui traitait du sujet du recul du trait de côte en lien avec l'érosion. Au cours de cette expérience, j'ai pu accompagner un certain nombre de territoires à se questionner sur comment s'adapter à ce recul. Quand on parle de recul du trait de côte, on parle d'un phénomène où la mer, petit à petit, vient enlever de la matière sur le rivage et progresse finalement. L'eau progresse en direction des terres et donc menace un peu les installations humaines qui sont à proximité. À travers cette première expérience professionnelle, j'ai pris conscience de la dimension internationale de ce sujet. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande majorité de littoraux à travers le monde qui sont concernés par ces phénomènes. C'est des phénomènes qui sont amplifiés par le changement climatique. Et malgré tout, on constate que les littoraux restent très attractifs. Donc on continue de s'installer massivement sur les littoraux, alors même qu'il y a une augmentation des risques. Donc là, il y a un petit paradoxe. Et puis après, il y a un deuxième paradoxe. On a bien identifié que les aménagements étaient une cause majeure de production des risques côtiers. Et pour autant, quand on parle des risques côtiers, on questionne assez rarement les modèles d'aménagement.
Oui, c'est ça. Tu t'es aperçu que ce sujet, finalement, était peu étudié, peu défriché.
En tout cas, peu étudié par les architectes. Et là, on peut se dire que c'est étrange, parce que si l'aménagement, c'est un enjeu qui est décisif pour maîtriser les risques, alors pourquoi est-ce que ça n'engage pas beaucoup plus les architectes et les urbanistes? Donc il y avait cette sorte d'absence de réflexion, ou en tout cas, elle était insuffisamment poussée, et c'est ça qui m'a vraiment conduit à mettre en place ce projet de recherche.
Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des littoraux en France? On assiste à une urbanisation continue, croissante. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui?
Alors, ce n'est pas une urbanisation continue, dans le sens où on a en France la chance d'avoir un certain nombre d'outils qui nous permettent de maîtriser en partie les processus d'urbanisation sur les littoraux. Je pense notamment à la loi Littoral qui a été promulguée en 1986. Et puis aussi, on a un outil qui s'appelle le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, dont la vocation, c'est d'acheter petit à petit du foncier, donc des terrains qui sont jugés comme des emprises qui ont un intérêt naturel majeur et qu'il faut préserver. Donc grâce à ces outils-là, on a pu malgré tout maîtriser les phénomènes d'urbanisation, ou en tout cas éviter le pire. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ces outils-là, ils ont été, jusqu'à présent, ils ont eu
Un faible
des
impact.
Résultats un peu mitigés, enfin, notamment pour ce qui est de la loi littorale. Parce que, en fait, pour récapituler hein, assez brièvement, la loi littorale, elle est arrivée un peu après la bataille. C'est-à-dire, elle est arrivée après de grandes opérations d'aménagement qui avaient été lancées avant sur les littoraux. Et donc, finalement, elle est venue encadrer une urbanisation qui était déjà en marche. Puis après, il y a des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les littoraux sont des territoires qui sont très attractifs. Pas seulement le temps des vacances d'été pour aller se baigner, aller à la plage et faire bronzette. C'est aussi des territoires qui sont attractifs tout au long de l'année parce qu'il y a beaucoup d'emplois, parce que c'est un cadre de vie qui est agréable et recherché, parce que les personnes âgées, au bout d'un moment, viennent prendre leur retraite. Et donc tous ces gens-là, ils exercent une pression parce qu'ils ont besoin d'être logés. Et en fait, il faut satisfaire cette demande.
Donc il y a une littoralisation qui se renforce.
Il y a une littoralisation qui se renforce. On répond à cette demande et parfois ça passe un peu sous les radars. Ça va être des zones agricoles qui vont petit à petit être mitées. Ça va être des zones qui vont se faire en extension ou bien à proximité des centres urbains existants, mais qui petit à petit vont altérer les paysages côtiers et parfois de façon pas très bien maîtrisée.
Et donc les situations à risque se multiplient.
Oui, effectivement. Le fait que cette urbanisation soit de plus en plus en interaction avec un certain nombre de dynamiques naturelles, au bout d'un moment, ça peut être problématique. On a des situations de friction, des endroits où on a aménagé beaucoup trop près de certaines zones humides, beaucoup trop près du rivage, et fatalement, au bout d'un moment, quand on se rapproche du rivage, eh bien, on s'expose aux impacts des tempêtes, aux impacts des houles. Et dès qu'on a un événement un peu extrême, eh bien, l'énergie qui est libérée par la houle, l'énergie marine, au lieu d'attaquer simplement ou d'être absorbée par les dunes, par les zones humides, elle est absorbée par les constructions et les édifices humains. Et donc, potentiellement, on peut avoir des destructions.
Tu parles de destruction, tu en cites deux majeures. Il y a la tempête Xynthia de 2010 et l'érosion brutale de la côte aquitaine lors de l'hiver 2013-2014. Qu'est-ce que ces deux catastrophes ont révélé, selon toi ?
Selon moi, ces deux catastrophes, elles ont révélé que des événements destructeurs pouvaient se produire dans des territoires très ordinaires. Si je prends l'exemple de la tempête Xynthia, elle a touché notamment un lotissement à La Faulte-sur-Mer dont on a beaucoup entendu parler parce qu'il y a eu beaucoup de morts dans ce lotissement. Et en fait, c'était un lotissement qui... on aurait dû le savoir qu'il était construit dans une zone basse littorale, mais c'était passé sous les radars. La catastrophe Xynthia a révélé que dans un petit lotissement de bord de mer gentillet où tout se passait bien jusqu'à présent, il pouvait y avoir ce genre de catastrophe. Et que donc potentiellement, à l'échelle du littoral français... on avait un inventaire à faire de toutes ces situations à risque. Il peut y en avoir beaucoup d'autres. Et c'est tout le travail qui a été engagé derrière d'essayer d'identifier ces zones à risque.
Et puis, il y a eu donc cette érosion brutale, je ne connaissais pas, de la côte aquitaine, donc en 2013-2014. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, en 2013-2014, l'ensemble de la côte aquitaine, qui est une côte sableuse, a connu un recul très important de son rivage, liées à une succession de tempêtes hivernales assez violentes et qui se sont vraiment succédées de façon très rapprochée. Et le rivage reculant, les habitants ne savaient pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Et donc là, un exemple emblématique, c'est l'immeuble du Signal, hein, où les autorités locales ont été contraintes d'évacuer les habitants de cet immeuble. Ça n'avait pas du tout été anticipé, donc ça a été très brutal. Et puis, il y a eu d'autres exemples. Un autre exemple emblématique, c'est la commune de Lacanau, où les élus locaux, les habitants, se demandaient jusqu'où ça allait reculer. Est-ce que le front de mer n'allait pas finalement partir à l'eau ? Donc finalement, on a d'un côté cet exemple de la côte aquitaine en 2013-2014, qui est assez représentatif de ce que peut être une érosion brutale sur des aménagements urbains. Et puis, de l'autre côté, l'exemple de la tempête Xynthia, qui était représentative, elle, de la submersion marine et de ses impacts dévastateurs.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après ces deux catastrophes dans la manière d'appréhender et de gérer les littoraux ?
Alors oui, il y a eu un avant et un après. Déjà, il y a eu un avant et un après en termes de recherche, parce que les années 2010, elles ont amorcé un tournant, ou en tout cas une prise de conscience qui a mené à investir assez massivement dans la recherche sur les risques, sur la gestion des risques et sur la vulnérabilité des territoires. Il y a eu un tournant aussi du point de vue de l'action publique, parce que les années 2010 ont été marquées par de plus en plus d'initiatives ou d'expérimentations pour tenter de trouver des solutions innovantes pour s'adapter. Et puis, plus globalement, elles ont été marquées par une prise de conscience générale, y compris au sein, je dirais, de la société civile, parce que on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus faire comme avant, urbaniser n'importe où et n'importe comment.
Mais pour autant, tu affirmes qu'on n'arrive pas à avoir en France une politique cohérente sur cette maîtrise des risques côtiers. Comment tu l'expliques ?
Alors, il y a plusieurs facteurs. Je dirais qu'au lendemain de ces événements bouleversants, on a tenté d'agir par la voie réglementaire. Et en fait, la voie réglementaire, c'est bien. Ça a permis d'identifier un certain nombre de zones vulnérables. Par contre, ça a pu, dans certains territoires, avoir un effet un peu contre-productif, dans le sens où on a bloqué un peu tous les projets des communes en dessinant des périmètres parfois un peu approximatifs. Et finalement, aujourd'hui, on a un peu cet héritage-là. Donc on a fait des cartes où on a bloqué un peu l'urbanisation, mais on n'a pas forcément trouvé comment réinventer les modèles autour, les modèles d'aménagement. C'est-à-dire, en gros, faire une carte qui interdit, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on fait avec les dynamiques naturelles et trouver des voies pour être aussi un peu plus permissif et faire les choses en bonne intelligence, pour que la prise en compte des risques donne lieu à des projets qui instaurent un rapport un peu plus intelligent, on va dire, entre les espaces habités et les dynamiques naturelles.
Donc il y a à la fois donc, une nouvelle ingénierie, de nouveaux outils à créer, et tu proposes l'idée que l'architecte urbaniste peut jouer en tout cas un rôle clé dans la prise en compte de ces aléas littoraux en lien étroit avec les géographes.
Alors oui, et d'ailleurs, les géographes, c'est même peut-être un peu simplifier la question que de réduire ça au binôme géographe-architecte-urbaniste. En fait, en réalité, ça concerne tout un tas de sciences qui peut-être gagneraient à mieux se parler et mieux interagir entre elles. Ça fait aussi appel à la biologie, à l'océanographie, etc. Et donc, l'idée, à travers cette recherche, c'est que peut-être en mettant en lien un peu plus ces savoirs-là, ces différents savoirs-là, on va réussir à produire des modèles qui soient un peu plus intelligents et pas seulement dans le registre de l'interdiction ou de l'autorisation. On bâtit pas. C'est constructible, c'est pas constructible. Peut-être qu'il y a des manières ou des voies intermédiaires à trouver, et c'était un peu l'enjeu exploratoire de cette recherche.
Alors, tu as nourri ton travail en étudiant en profondeur 5 territoires côtiers qui sont à la fois divers par leur géographie et leur urbanisation. Alors, il y a le Barcarès, La Rochelle, Lacanau, Saint-Nazaire et Salins-de-Giraud en Camargue. Qu'est-ce qui t'a guidé dans ton choix, ces 5 exemples qui sont assez révélateurs aujourd'hui des littoraux en France ?
Alors l'idée, ça a été d'essayer d'avoir un échantillon de territoire
représentatif,
qui soit un peu représentatif à la fois de réalité géomorphologique. Alors quand on parle de géomorphologie, c'est est-ce qu'on est sur une côte plutôt marécageuse ? Est-ce qu'on est sur un estuaire ? Est-ce qu'on est sur un delta ? Est-ce qu'on est sur des dunes ? Est-ce qu'on a affaire à des falaises ? Donc c'est un peu toutes ces réalités physiques qui vont avoir un impact et qui doivent être prises en compte dans l'aménagement. Parce qu'en fait, un sol, c'est pas un sol vierge, c'est un sol qui est vivant et qui évolue dans le temps. Donc en fonction de ces réalités géographiques, on va pas bâtir de la même manière. Et de l'autre côté, ces territoires, je les ai choisis parce qu'ils étaient aussi représentatifs d'un certain nombre de formes d'urbanisation assez représentatifs de différentes époques ou de différents archétypes. Je vais prendre quelques exemples. Quand je parle d'archétypes, ça peut être la station balnéaire qu'on a pu construire au XXe siècle. Ça va être la ville portuaire, avec ses bassins, ses quais, ses digues, ses entrepôts. Ça va être des espaces agricoles qu'on va pouvoir retrouver, par exemple, en Camargue, en lien avec les zones basses. Donc voilà, tout un tas de manières d'habiter qui sont différentes.
On va faire un zoom sur ces 5 exemples. On va commencer donc par le Barcarès, qu'on appelle aussi Port Barcarès. C'est une commune donc littorale qui compte un peu plus de 5500 habitants dans le nord-est du département des Pyrénées-Orientales. Qu'est-ce qui t'a intéressé en choisissant cette commune ?
Alors, ce qui était intéressant avec le cas du Barcarès, c'est que c'est une commune qui s'étire sur une bande de sable qui est comprise entre une lagune et la mer Méditerranée, dans finalement un espace qui est extrêmement contraint. Et dans cet espace-là, dans les années 60-70, on a urbanisé de façon assez forte pour accueillir le tourisme de masse. C'est un territoire qui aujourd'hui vieillit, en tout cas une station balnéaire qui vieillit parfois un peu difficilement, avec des copropriétés qui sont parfois un peu dégradées, et qui, bien qu'elles aient un intérêt architectural, aujourd'hui on ne sait pas trop comment les gérer.
Et cette station, elle est fortement exposée donc, aux aléas littoraux.
Alors, de fait, elle est fortement exposée parce qu'on a urbanisé sur une petite langue de sable qui est, par définition, un milieu qui est mouvant, qui est vivant, et qu'on a cherché à stabiliser avec de nombreux remblais. Aujourd'hui, en gros, on parle d'un territoire qui se situe entre 0 et 2 mètres d'altimétrie au-dessus du niveau de la mer. Donc oui, c'est un territoire qui est très vulnérable.
Et pour répondre à cette vulnérabilité, les pouvoirs publics donc, ont lancé le plan littoral 21, c'est ça, pour lutter contre l'obsolescence et retrouver un peu une attractivité nouvelle.
Alors, c'est là où on peut peut-être aussi avoir un regard un peu
critique.
Hein. C'est un plan qui a été quand même, qui s'inscrit majoritairement dans une logique de relance économique, relance du tourisme, par une modernisation de ces stations.
Donc pas de vision globale.
Une vision, on va dire, qui est assez axée projet économique, projet touristique. Alors, on parle beaucoup d'économie verte et bleue, l'emploi c'est important, l'économie c'est important. Ça répond effectivement à un problème de modernisation de ces stations dont on a dit qu'elles étaient un peu vieillissantes. Mais par contre, la question des risques, elle est franchement pas à l'avant-plan.
Oui, tu dis même que la municipalité n'a pas l'air de trop s'en préoccuper.
Alors, la municipalité ne s'en préoccupe pas trop. Elle envisage majoritairement son projet de territoire à travers la construction de nouveaux anneaux, de nouveaux espaces portuaires, de nouveaux commerces, de nouveaux logements. En gros, pour le dire simplement, elle aimerait être davantage une vraie ville à l'année avec plus d'habitants, plus de commerces, plus de services. Et en fait, on peut vraiment se poser la question de la pertinence de ce type de projet de territoire ou de ce type de vision quand on sait que c'est un territoire qui se trouve sur une toute petite langue de sable. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt matière à travailler sur des projets de renaturation, sur la façon d'adapter les espaces publics au changement climatique, etc.
Alors, partons à La Rochelle, donc préfecture de la Charente-Maritime. J'imagine que tu as choisi cet exemple donc, en raison de la tempête Xynthia. Qu'est-ce qui s'est passé à La Rochelle avec la tempête Xynthia ? Il y a eu un avant et un après, là, clairement ?
Alors oui, clairement, La Rochelle, ça fait partie des territoires qui ont été très touchés par la tempête Xynthia. Parce que au-delà du fameux lotissement de la Faute-sur-Mer, en fait, la tempête Xynthia a affecté aussi les côtes de la Charente-Maritime, de la Vendée et même de la Loire-Atlantique. La ville a été vraiment sous le choc parce qu'au lendemain de la tempête Xynthia, c'était des bateaux qui se retrouvaient sur les quais, des commerces qui avaient été complètement inondés, et puis des habitants qui étaient vraiment sous le choc. L'eau, elle a vraiment monté bien au-delà de ce qu'on avait l'habitude de connaître. Pourquoi je me suis intéressé à La Rochelle ? Parce que derrière, il y a eu un projet assez emblématique de fait, aux abords du Vieux-Port, pour essayer de protéger les espaces urbains.
Oui, les pouvoirs publics ont réagi, c'est ça, en mettant en place 3 programmes d'action de prévention des inondations, les PAPI. Est-ce que ces plans, ces papiers ont été à la hauteur des enjeux ? Est-ce qu'ils ont été exemplaires après cette tempête Xynthia ?
Alors, je vais faire une réponse oui et non. Parce que d'un certain côté, ce à quoi on pourrait s'attendre au lendemain d'une telle crise, c'est un bouleversement du modèle d'aménagement. Et finalement, la réponse a été de construire massivement, d'investir massivement dans la construction de digues. Donc on a fait ces fameux papis qui ont permis d'endiguer sur un linéaire assez conséquent le littoral pour protéger les espaces urbanisés qui étaient derrière. Après, on l'a fait d'une façon qui était quand même assez innovante, et là pour rendre hommage un peu aux projets qui ont pu être faits, notamment du point de vue de l'intégration paysagère de ces ouvrages dans les espaces publics. Alors j'ai beaucoup réfléchi au cas des aménagements qui ont été faits à proximité du Vieux-Port. Ils sont innovants parce que la digue, elle est en quelque sorte dissimulée dans les aménagements urbains. Ça va être ici un banc qui fait digue, là un système de plaques qui va se relever pour venir protéger des commerces, etc. Et donc finalement, ça dissimule un peu la digue. Par contre, moi, ce que je pointe, c'est que l'effet un peu retors de ces aménagements, c'est qu'ils ont beau être innovants, soignés du point de vue de l'intégration paysagère et urbaine, ça reste des digues. Ça reste des digues et finalement, on n'est pas dans un modèle de bifurcation, on est dans un modèle qui est en parfaite continuité avec la façon dont on se protégeait de la submersion avant. Et pendant qu'on fait ces digues, on ne se pose pas forcément la question de l'adaptation du bâti qu'il peut y avoir derrière.
Partons à Lacano, donc en Gironde, réputé pour ses spots de surf. Tu as titulé ce chapitre « Dilemme entre recomposition et protection ». C'est-à-dire ?
Alors, Lacano, c'est une commune qui est assez bonne élève, on va dire, parce que ça fait 10 ans, même plus de 10 ans maintenant, qu'ils s'intéressent, et pour cause, au recul du trait de côte, parce qu'ils sont les premiers concernés. Ils ont fait un peu tous les appels à projets, ils ont été sites pilotes, ils ont fait des stratégies innovantes de gestion des risques, et malgré tout, 10 ans plus tard, ils se retrouvent face à un choix, face à un dilemme, qui est que, face à l'érosion, est-ce qu'on envisage un recul des installations humaines, c'est-à-dire petit à petit, est-ce qu'on va déconstruire un certain nombre de bâtiments pour les réimplanter, mais sous une autre forme, plus en retrait ?
Il y a cette réflexion, là ?
Il y a cette réflexion qui a été menée, mais d'un autre côté, on ne sait pas comment faire, en fait. Aujourd'hui,
on manque d'outils, tu veux dire ?
On manque d'outils. Et ce à quoi a été confrontée la commune de Lacano, c'est... tout ce travail a été finalement assez peu pris en compte par l'État dans ses réflexions, ou en tout cas très tardivement. Et donc, ils ont, au niveau de la commune de Lacano, manqué d'outils pour mettre en œuvre cette approche, on va dire, un peu innovante de déconstruction préventive du front de mer. Et donc, fatalement, ils se retrouvent, pour gérer les risques, dans l'obligation d'envisager aujourd'hui un autre scénario. C'est que comme il faut bien protéger la population, comme il faut bien protéger les commerces et l'activité économique d'une station balnéaire comme ça, on se projette de plus en plus vers la construction d'un ouvrage. Donc quand on parle d'ouvrage, c'est des enrochements pour stopper l'érosion. Au moins de façon temporaire, le temps de trouver des façons de mettre en œuvre une stratégie de réaménagement.
On reste sur la côte atlantique avec Saint-Nazaire, qui là aussi a été fortement impacté par la tempête Xynthia. Comment les acteurs locaux ont réagi là ?
Alors là, ce qui a été intéressant au niveau de Saint-Nazaire, c'est qu'ils ont mis en place assez vite un plan de prévention des risques littoraux. Alors dans le sillage de tous ces plans qui ont été faits après Xynthia, pour essayer de cartographier les zones à risque. Moi, un projet qui m'a plus particulièrement intéressé au niveau de Saint-Nazaire, c'est un projet qui n'était pas forcément fait en lien avec la tempête Xynthia, ni en réaction. C'était un projet qui était en marche depuis plusieurs années pour essayer de retrouver un rapport intéressant entre la ville et son littoral. Et finalement, c'est là où j'ai trouvé intelligente la démarche de Saint-Nazaire, c'est de ne pas mettre l'accent uniquement sur la gestion du risque à travers une approche vraiment de jugulation des risques, mais d'essayer de réfléchir plus globalement. À un projet, à un modèle un peu de résilience visant à contenir l'urbanisation dans des limites qui sont définies par les espaces naturels voisins.
Le dernier exemple que tu as choisi, c'est la Camargue. Alors déjà, ce qu'on peut dire sur la Camargue, c'est qu'elle véhicule l'image d'une réserve sauvage en dépit de son caractère très artificiel.
C'est un vrai paradoxe parce qu'en fait, quand on commence à étudier la Camargue, on découvre qu'on a affaire à un territoire qui est au fond extrêmement artificialisé, au sens où il est extrêmement dépendant d'ouvrages de régulation. On a fait petit à petit des canaux pour essayer de cultiver, de mettre en valeur d'un point de vue agricole la Camargue. Et puis, comme il y a eu au XIXe siècle des tempêtes très importantes qui ont affecté ces exploitations agricoles, on a eu la construction assez rapide, en quelques années, de systèmes d'endiguement à la fois des bras du Rhône et de la mer, avec cette fameuse digue à la mer, qui ont permis de faire de la Camargue un territoire extrêmement contrôlé.
Quels sont les défis auxquels ce territoire est confronté ?
Alors, les défis auxquels ce territoire est confronté, c'est que pour continuer à maintenir en ordre de marche ce territoire, on a besoin de continuer à entretenir un certain nombre d'ouvrages, notamment les canaux qui servent à drainer. On a besoin pour ça aussi, pour continuer à cultiver, de dessaler ces terres. Et donc tout ça, en fait, ça suppose une sorte de maintenance du territoire qui est aujourd'hui pas forcément assurée. Parce que si les agriculteurs n'arrivent pas à dégager une rentabilité économique, ils ne parviennent pas forcément à entretenir tout le système de pompes, d'irrigation, de drainage. Donc ça, c'est un premier point. Et moi, ce qui m'a intéressé vraiment sur ce territoire, c'est qu'on commence dans certaines parties où on n'a plus de rentabilité, ou en tout cas une rentabilité qui est un peu plus faible, on commence à réfléchir à instaurer un autre rapport entre la terre et la mer. Pour être précis, au-delà de l'agriculture, il y a des salins qui servent à produire du sel. Et en fait, leurs installations, pour être fonctionnelles, elles doivent être protégées de la mer. Aujourd'hui, ces salins étant en déclin économique, ils ne sont plus forcément en mesure de maintenir les digues qui les protègent de la mer. Et donc on a des scientifiques qui ont cherché à mettre en œuvre un nouveau mode de gestion de cette digue qui protège ces salins, en essayant de se dire, finalement, si plus personne veut investir dans cette digue, laissons la nature reprendre ses droits. Et en fait, ils ont profité, suite à une tempête qui avait causé des dommages sur cette digue, ils ont profité de cette opportunité-là pour mettre en place un projet scientifique visant à étudier simplement la nature en train de reprendre ses droits sur ce secteur-là. Ce qu'il faut souligner, c'est que est-ce que ça peut constituer en soi une solution ? Je ne sais pas, parce que les scientifiques qui mettent en place cette expérimentation sont pas forcément toujours très en relation avec les populations qui, elles, habitent à proximité et voient pas forcément toujours d'un bon œil le fait qu'on arrête de maintenir une digue qui potentiellement les protège de la mer. Donc on voit que c'est des questions qui sont éminemment politiques et sur lesquelles les arbitrages à trouver sont pas forcément toujours très simples.
Quel bilan il faut tirer de ces 5 exemples ? Ce sont, on l'a vu, donc à chaque fois des situations très diverses. Les solutions mises en place, tu l'as précisé, ne répondent que partiellement aux enjeux climatiques.
Ce que j'essayais de montrer à travers le choix de ces 5 territoires, c'est qu'on a une sorte de gradation dans les modalités d'intervention sur les littoraux. En partant du Barcarès, pour arriver jusqu'à la Camargue, on part d'un territoire où on est vraiment dans le refus de prendre en compte le risque, on continue à faire comme avant, on relance la construction, on agrandit le port, on fait plus de digues, plus d'ouvrages, et on arrive, donc ça c'est un peu un extrême, et puis on arrive au cas de la Camargue où c'est quasiment l'autre extrême, on assiste à la nature en train de reprendre ses droits, on regarde, on observe, et finalement, on se pose assez peu la question des habitants du territoire qui vivent à Salins-de-Giraud, juste à côté. Et finalement, entre ces deux extrêmes, le côté « tout passe par la relance de l'aménagement, bétonner plus », ou « tout passe par faire confiance complètement aux dynamiques naturelles », on voit bien que Peut-être il faut trouver une voie intermédiaire entre ces deux façons de faire.
Pour toi, c'est une solution globale, proposer l'épaisseur littorale comme modèle. Tu peux revenir déjà sur ce qu'on entend par épaisseur littorale ?
Alors l'épaisseur littorale, c'est, on va dire, maintenant un concept que j'ai essayé de forger aussi à travers mon travail de recherche, qui consiste à se dire qu'on ne peut pas considérer les littoraux uniquement du point de vue du bord de mer. Parce que, en fait, les dynamiques naturelles du littoral, elles engagent des relations assez complexes avec l'arrière-pays. Et donc, on doit s'appuyer sur ces dynamiques naturelles en prenant en compte aussi les arrière-pays. Et ça, on va le retrouver aussi d'un point de vue des dynamiques d'urbanisation. Parce que quand on regarde ce qui se passe en termes de dynamique d'urbanisation dans les territoires côtiers, on se rend compte que l'urbanisation, elle se fait aussi de plus en plus dans une logique de report sur l'arrière-pays. Parce que tout le monde ne parvient pas à se loger en bord de mer. Et donc, fatalement, eh bien, comme il y a une attractivité, parce que c'est des bassins d'emploi, c'est des bassins de vie qu'on considère comme très dynamiques, eh bien, on a une urbanisation qui se produit de plus en plus dans une forme d'épaisseur. Et donc, si on superpose cette couche des aménagements avec cette couche des dynamiques naturelles, on se dit qu'il y a peut-être une logique à vouloir intégrer ces deux couches et réfléchir non pas à travers des digues ou en tout cas une ligne très très fine, mais plutôt dans une logique qui va aller chercher des liens, à mettre en place des liens entre le bord de mer et l'arrière-pays. Et c'est peut-être une façon d'atténuer les risques.
Oui, tu parles de cette épaisseur littorale comme une enveloppe protectrice.
Oui. Dans le sens où, quand on commence à intégrer le fait de se dire qu'on ne peut pas bâtir aussi près que ce qu'on faisait avant des zones humides, eh ben on se dit qu'il faut réintroduire une distance, à un moment donné, entre les espaces bâtis et les espaces non bâtis, pour laisser s'écouler l'eau, pour que quand il y a une crue, l'eau ait de la place pour pouvoir... s'échapper, et c'est ça en fait, c'est en travaillant sur cette mise à distance qu'on va pouvoir atténuer les risques, en partie, hein. Ça peut être plus complexe que ça, mais en partie je pense que c'est vers ça qu'il faudrait aller aujourd'hui.
Mais une bonne gestion des littoraux, donc si j'ai bien compris ta démarche, c'est à la fois, et on ne peut pas s'en passer, c'est la construction quand même d'ouvrages de défense côtière, tout en ayant cette réflexion donc de l'épaisseur littorale comme enveloppe protectrice. Ça passe par ces deux éléments, l'avenir des littoraux, aujourd'hui ?
Alors, exactement. Protection, dans le sens où il faut pouvoir, dans certains cas, se donner un peu de temps pour arriver à mettre en œuvre une stratégie plus profonde de transformation.
Elles resteront toujours utiles, ces protections côtières ?
Ben, ça dépend comment on envisage l'avenir du littoral, et ça dépend surtout des territoires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une logique où on n'est pas certain de l'efficacité à long terme de ces ouvrages, déjà. C'est des manières de faire qui sont extrêmement consommatrices en termes de ressources et d'énergie, et c'est des ouvrages qui sont compliqués à financer, et dont on n'est pas sûr qu'on parviendra toujours à les financer dans 15, 20 ans, 30 ans pour faire face à la submersion comme à l'érosion. Donc, autant commencer à penser dès à présent des logiques opérationnelles pour transformer plus en profondeur les tissus urbains. Et c'est là où ça fait appel aussi aux compétences des architectes, des urbanistes, des paysagistes.
Alors, tu as mis 3 ans pour réaliser donc cette thèse. À quel problème as-tu été confronté ? Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce travail ?
Je pense que ce qui a été difficile dans ce travail de recherche, ça a été déjà de faire entendre la légitimité que peut avoir un architecte urbaniste à se poser ces questions-là qu'on renvoyait systématiquement à des questions de géographe ou d'ingénieur. Donc déjà, faire exister un peu ce thème en tant que question de recherche en architecture, ça, c'était pas acquis d'avance. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a une deuxième difficulté qui est, entre guillemets, de passer d'un travail qui a permis de construire des concepts, de faire tout un cheminement théorique pour passer, pour le réinjecter dans l'opérationnel. Et aujourd'hui, moi, ce dont je me rends compte, c'est qu'on est beaucoup plus enclin à commander des études portant sur des questions extrêmement précises, circonscrites, sur des aspects très techniques, combien d'enjeux exposés, comment dimensionner telle digue, combien de propriétaires sont concernés, comment est-ce qu'on chiffre ces enjeux-là. On pose beaucoup plus ces questions-là que celles des modèles. Et donc, il reste aujourd'hui à faire valoir l'intérêt de questionner aussi, au-delà de la simple gestion des risques, les enjeux derrière de projets de territoire, d'urbanisme, d'architecture et de paysage.
Tu as soutenu cette thèse le 7 mai 2021. Que fais-tu depuis ? Est-ce que tu continues à travailler sur les littoraux ?
Alors oui, je continue à travailler sur les littoraux. J'ai intégré depuis un bureau d'études d'ingénierie qui est assez réputé pour les questions de gestion des risques, de modélisation aussi des dynamiques naturelles des littoraux. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix d'aller vers ce bureau d'études en me disant qu'on pourrait pousser l'exercice de l'interdisciplinarité jusqu'à le rendre un peu opérationnel. Et donc concrètement, aujourd'hui, moi j'essaye de continuer à travailler sur les territoires côtiers en apportant un regard un peu nouveau, ou en tout cas le regard qui est le mien d'architecte et d'urbaniste, sur la question de la gestion des risques côtiers. Alors ça se passe par différents projets, ça peut être des stratégies de gestion de la bande côtière, dans lesquelles il y a des ateliers de concertation, il y a une dimension de participation citoyenne qui est assez présente, mais ça peut être aussi des concours. Alors il y a eu un concours d'idées dont on a beaucoup entendu parler dernièrement dans le monde de l'aménagement, qui a été le concours d'idées Amiter, visant à mieux habiter les territoires à risque. Donc ça va être aussi de la recherche de solutions un peu innovantes pour habiter dans ces territoires-là.
Très bien. Merci beaucoup, Thomas, pour cet échange.
Eh bien, merci à toi pour l'invitation et pour la discussion qui a été, je l'espère, intéressante.
C'était un échange très riche, effectivement, et stimulant. Bonne continuation à toi, Thomas. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet du jour, je mettrai des informations sur le site de l'agence Plus d'Idées. Il y aura notamment les précieux conseils de lecture de Thomas. Je vous invite à écouter les autres épisodes de Nouveau Territoire. Abonnez-vous à la page Instagram également de Nouveau Territoire. Vous pouvez aussi m'écrire à bonjour@agence-plus-d'idées.com pour me proposer des sujets si vous êtes en train de réaliser une thèse. Un grand merci aux équipes d'Écoute Studio, en particulier Sandrine Dominguez et Géraldine Le Guenec, et Alice Dubé qui m'accompagne pour la production et la diffusion du podcast. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous.